Robert Louis Stevenson. Le maître de Ballantrae. Chapitre 3. Les pérégrinations du maître. Extrait des mémoires du chevalier de Burke. Je quittais Ruthven, est-il besoin de le dire, avec beaucoup plus de satisfaction que je n'y étais arrivé. Mais soit que je me trompais de chemin dans les solitudes, ou soit que mes compagnons m'abandonnèrent, je me trouvai bientôt seul. Ma situation était fort désagréable, car je n'ai jamais rien compris à cet affreux pays ni à ses sauvages habitants, et le dernier coup de la retraite du prince nous avait rendus, nous autres Irlandais, plus impopulaires que jamais. Je réfléchissais à mes tristes perspectives lorsque je découvris sur la colline un autre chevalier, que je pris d'abord pour un fantôme, car le bruit de sa mort en plein front de bataille à Culloden avait couru dans l'armée entière. C'était le maître de Ballantrae, fils de Mylord Dury, un jeune gentilhomme exceptionnellement brave et doué, et destiné par la nature aussi bien à faire l'ornement d'une cour qu'à moissonner des lauriers sur le champ de bataille. Cette rencontre nous fit grand plaisir à tous deux, car il était de ces rares Écossais qui avaient traité les Irlandais avec bienveillance, et il pouvait à présent m'être des plus utiles en favorisant mon évasion. Toutefois, notre amitié ne devint plus intime qu'après une aventure romanesque comme une légende du roi Arthur. C'était le second jour de notre fuite. Nous venions de passer la nuit sous la pluie, au flanc de la montagne. Il se trouva qu'un homme d'Appin, Alan Black Stewart, ou quelques noms de ce genre, mais je l'ai revu depuis en France, suivait aussi notre chemin, et qu'il eut une pique avec mon compagnon. Des paroles fort inciviles furent échangées, et Stewart somma Ballantrae de mettre pied à terre et de lui rendre raison. « Non, Mr. Stewart, dit le maître, j'ai plutôt idée pour l'heure de faire la course avec vous. » Et il donna de l'éperon à son cheval. Stewart courut derrière nous pendant près d'un mile, et ce qui était un vrai enfantillage, je me pus m'empêcher de rire lorsqu'en me retournant pour la dernière fois, je le vis dans une montée qui se tenait le flanc et n'en pouvait plus de courir. Quand même, ne pus-je m'empêcher de dire à mon compagnon, je ne laisserai personne courir ainsi derrière moi après de telles paroles sans lui donner satisfaction. La plaisanterie est bonne, mais elle fleure un peu la couardise. Il me regarda en fronçant le sourcil. J'ose pourtant bien, dit-il, me mettre sur le dos l'homme le plus impopulaire d'Écosse, et le courage est suffisant. Oh, parbleu, dis-je, je puis vous en faire voir un plus impopulaire encore, et à l'œil nu. Et si vous n'aimez pas ma société, vous pouvez vous mettre sur le dos quelqu'un d'autre. Colonel Burke, dit-il, pas de querelle entre nous, et à ce propos, je dois vous avertir que je suis l'homme du monde le moins patient. Je suis aussi peu patient que vous, dis-je, et peu m'importe qui l'entend. De ce pas, dit-il en retenant son cheval, nous n'irons guère loin. Je propose que nous fassions sur le champ de deux choses l'une, ou bien nous battre et en finir, ou bien conclure un pacte ferme et supporter n'importe quoi l'un de l'autre. Comme un couple de frères, demandai-je. Je ne dis pas semblable bêtise, répliqua-t-il. J'ai un frère, moi, et je ne l'estime pas plus qu'un chou vert. Mais si nous devons réciproquement nous étriller un peu au cours de cette fuite, que chacun ose être lui-même comme un sauvage, et que chacun jure qu'il n'aura ni ressentiment ni mépris envers l'autre. Je suis un très méchant individu au fond, et j'estime très fastidieuse l'affectation de la vertu. Oh, je suis aussi méchant que vous, dis-je. Francis Burke n'a pas du lait battu dans les veines. Mais que décidons-nous, le combat ou l'amitié ? Bah, dit-il, le mieux sera, je pense, de jouer la chose à pile ou face. La proposition était trop chevaleresque pour ne pas me séduire, et aussi étrange que cela puisse paraître pour deux bons gentilshommes contemporains, nous lançâmes en l'air une demi-couronne, telle deux paladins de jadis, afin de savoir si nous allions nous couper la gorge ou devenir amis jurés. Une aventure plus romanesque n'a pas dû arriver souvent, Et c'est là pour moi un de ces exemples d'où il appert que les contes d'Homère et des poètes sont encore vrais aujourd'hui, du moins chez les nobles et les gens de bon ton. La pièce décida la paix et nous scellâme le pacte d'une poignée de main. Ce fut alors que mon compagnon m'expliqua pour quelle raison il avait fui Mr. Stewart, raison digne à coup sûr de son intelligence politique. Le bruit de sa mort, dit-il, était sa meilleure sauvegarde. Mr. Stewart l'ayant reconnu devenait un danger, et il avait pris le chemin le plus court pour s'assurer le silence du gentilhomme. « Car, dit-il, Alan Black est trop vain pour raconter de lui-même pareille aventure. » Dans l'après-midi, nous atteignîmes les bords de ce loch qui était notre but. Le navire était là, qui venait à peine de jeter l'ancre. C'était la Sainte-Marie des Anges, du Havre de Grâce. Le maître, après avoir appelé par signaux une embarcation, me demanda si je connaissais le capitaine. Je lui répondis que c'était un mien compatriote de la plus entière probité, mais, je le craignais, assez timoré. « Peu importe, dit-il, malgré tout, il faut qu'il sache la vérité. » Je lui demandai s'il voulait parler de la bataille, car si le capitaine apprenait le mauvais état des affaires, nul doute qu'il ne remît à la voile aussitôt. « Et quand bien même, dit-il, les armes ne sont plus d'aucune utilité à présent. » « Mon cher ami, dis-je, qui pense aux armes? Ce sont nos amis dont il faut se souvenir. Ils doivent être sur nos talons, voir le prince en personne. Et si le navire est parti, voilà maintes existences précieuses en péril. » « À ce compte, le capitaine et son équipage ont aussi leurs existences, » dit Ballantrae. « Il me servit là un faux fuyant, déclarai-je, et je ne voulais toujours pas qu'il dît rien au capitaine. » Ce fut alors que Ballantrae me fit une réponse spirituelle, à cause de quoi, et aussi parce que l'on m'a blâmé pour cette affaire de la Sainte-Marie des Anges, je rapporte ici nos paroles textuelles. « Francis, dit-il, rappelez-vous notre pacte. Je n'ai rien à objecter à ce que vous teniez votre langue, ce que je vous engage même à faire par la suite, mais d'après nos conventions, vous devez me laisser libre de parler. » Je ne pus m'empêcher de rire, mais je persistai à l'avertir de ce qui en sortirait. « Que le diable en sorte, peu manchot, dit l'enragé garçon. J'ai toujours exactement suivi mes impulsions. » Comme chacun sait, ma prédiction se réalisa. Le capitaine n'eut pas plus tôt appris les nouvelles qu'il coupa son amarre et reprit la mer. Avant l'aube, nous étions dans le Grand Minch. Le navire était très vieux, et le capitaine, encore que très honnête homme, et irlandais en outre, était des moins capables. Le vent soufflait avec fureur et la mer était excessivement grosse. Tout ce jour, il nous fut impossible de boire ni de manger. Nous allâmes nous coucher de bonne heure, non sans inquiétude, et comme pour nous donner une leçon, dans la nuit, le vent passa subitement au nord-est et se mit à souffler en ouragan. Nous fûmes éveillés par l'effroyable fracas de la tempête et les pas précipités des matelots sur le pont, de sorte que je crus notre dernière heure arrivée. Et ma terreur s'accrut démesurément à voir Ballantrae railler mes dévotions. C'est en des heures comme celle-là qu'un homme de pitié apparaît sous son vrai jour, et que nous nous découvrons, ce qu'on nous enseigne dès notre plus jeune âge, quelle faible confiance on peut mettre en ses amis profanes. Je serais indigne de ma religion si je laissais passer l'occasion de faire cette remarque. Pendant 3 jours, nous restâmes dans l'obscurité de la cabine, sans autre chose qu'un peu de biscuit à grignoter. Le 4e jour, le vent tomba, laissant le navire dématé et se balançant sur d'énormes lames. Le capitaine n'avait aucun soupçon des parages où nous avions été chassés. Il ignorait parfaitement son métier et ne savait faire autre chose qu'invoquer la Sainte Vierge. Excellente pratique, certes, mais qui n'est pas tout le talent du marin. Nous avions pour unique espoir d'être recueillis par un autre navire. Mais s'il arrivait que ce navire fût anglais, cela ne profiterait guère au maître, ni à moi. Les 5e et 6e jours, nous fûmes ballottés sans remède. Le 7e, on hissa de la toile, mais le navire était lourd, et nous ne fîmes guère que dériver. Tout le temps, en effet, nous avions porté vers le sud-ouest, et durant la tempête, nous avions dû être entraînés dans cette direction avec une violence inouïe. Le 9e jour se leva froid et sombre, avec une grosse mer et tous les symptômes du mauvais temps. Dans cette situation, nous eûmes le ravissement d'apercevoir à l'horizon un petit navire et de voir qu'il s'approchait et venait droit sur la Sainte Marie. Mais notre joie ne fut pas de longue durée, car lorsqu'il fut assez proche pour mettre à la mer une embarcation, celle-ci fut immédiatement remplie d'une tourbe désordonnée de gens qui chantaient et criaient en ramant vers nous, et qui se répandirent sur notre pont, le coutelas nu au poing, et blasphémant effroyablement. Leur chef était un odieux sacripant, le visage noirci et les favoris frisés en bouclettes. Il se nommait Teach, et c'était un pirate très notoire. Il frappait du pied sur le pont, s'écriant qu'il s'appelait Satan et son navire l'Enfer. Il y avait dans ses allures quelque chose de l'enfant vicieux et de l'individu timbré qui me stupéfia. Je glissai à l'oreille de Ballantrae que je ne serais certes pas le dernier à m'engager et que je priais seulement Dieu qu'il fût à court de matelots. Il m'approuva d'un signe de tête. « Parbleu, dis-je à maître Teach, si vous êtes Satan, voici un diable pour vous. » Le mot lui plut, et, pour ne pas m'apesantir sur ces détails révoltants, Ballantrae et moi, plus deux autres, fûmes admis comme recrues, mais le capitaine et tout le reste furent précipités à la mer par la méthode de la promenade sur la planche. C'était la première fois que je la voyais expérimenter. Mon cœur défaillit à ce spectacle, et Master Teach, ou l'un de ses acolytes, fit remarquer ma pâleur d'un air très inquiétant. J'eus le courage de leur danser deux ou trois pas de gigue et de lâcher quelques grossièretés, ce qui me sauva pour l'instant. Mais quand il me fallut descendre dans la yole, au milieu de ces mécréants, mes jambes faillirent se dérober sous moi, et tant par dégoût de cette société que par effroi des lames monstrueuses, je fus à peine capable d'user de ma langue en bon irlandais et de lancer quelques plaisanteries durant le trajet. Par la bénédiction de Dieu, il y avait un crin-crin sur le bateau pirate, et je ne l'eus pas plutôt aperçu que je m'en emparai, et ma qualité de ménétrier me valut la chance merveilleuse de gagner leur bonne grâce. Pat le violonneux, tel fut le sobriquet dont ils m'affublèrent. Mais je me souciais peu du nom, tant que ma peau était sauve. Quel genre de pandémonium était ce navire, je ne saurais le décrire. Mais il était commandé par un fou et pourrait s'appeler un bedlam flottant. Buvant, braillant, chantant, querellant, dansant, jamais tous à la fois n'étaient sobres. À certains jours même, s'il était survenu un grain, il nous aurait envoyés au fond, ou si un vaisseau du roi avait passé près de nous, il nous aurait trouvés incapables de défense. Deux ou trois fois, nous aperçûmes une voile, et lorsqu'on n'avait pas beaucoup bu, on s'en emparait, Dieu nous pardonne. Et si nous étions trop ivres, elle s'échappait, et je bénissais les saints à part moi. Teach gouvernait, si l'on peut dire, bien qu'il ne fît régner aucun ordre, par la terreur qu'il inspirait, et je vis que notre homme était infatué de son importance. J'ai connu des maréchaux de France moins ouvertement bouffis de la leur, ce qui jette un jour singulier sur la poursuite des honneurs et de la gloire. En fait, à mesure que nous avançons en âge, nous percevons mieux la sagacité d'Aristote et des autres philosophes de l'Antiquité. Et bien que j'aie toute ma vie recherché les distinctions légitimes, je puis, à la fin de ma carrière, déclarer, la main sur la conscience, qu'il n'en est pas une, non, pas même la vie non plus, qui vaille d'être acquise ou conservée au moindre préjudice de notre dignité. Je fus longtemps avant de pouvoir m'entretenir en particulier avec Ballantrae. Mais à la fin, une nuit, nous allâmes en rampant nous poster sur le Beaupré, alors que les autres étaient mieux occupés, et nous causâmes de notre situation. « Nul ne peut nous délivrer que les saints, » dis-je. « Mon opinion est tout autre, » répliqua Ballantrae. Car je vais me délivrer moi-même. Ce Teach est la dernière des nullités, il ne nous sert de rien et nous expose sans cesse à être capturés. Je n'ai pas envie de faire le pirate goudronné pour rien, ni de me laisser pendre si je puis l'empêcher. Et il m'exposa le plan qu'il avait conçu pour améliorer la discipline du navire, ce qui nous donnerait la sécurité pour le présent et l'espoir d'une prochaine délivrance, lorsqu'on aurait gagné assez pour rompre l'association. Je lui avouai ingénument que j'avais les nerfs très éprouvés par cet horrible milieu et que je n'osais guère lui répondre de moi. « Je ne me laisse pas effrayer aisément, répliqua-t-il, ni battre. » Quelques jours plus tard survint un incident qui faillit nous faire pendre tous, et qui offre l'exemple le plus extravagant de la folie qui présidait à notre conduite. Nous étions tous très ivres, et quelques bedlamites ayant signalé une voile, Teach le prit en chasse sans même y regarder, et nous commençâmes le branle-bas de combat et les vantardises des horreurs à venir. Palantré demeurait tranquillement au bossoir, à regarder sous sa main en abat-jour. Mais quant à moi, suivant ma politique vis-à-vis de ces sauvages, j'étais tout à la besogne avec les plus actifs, et les divertissais par mes boutades irlandaises. « Hissez le pavillon !» s'écria Teach. « Montrez à ces gens foutres le joli Roger !» C'était en l'occurrence pure forfanterie, et qui pouvait nous coûter une prise de valeur. Mais je ne me permis pas de discuter, et de ma main, je hissai le pavillon noir. Ballantrae s'en vint aussitôt vers l'arrière, avec un sourire sardonique. « Vous aurez peut-être plaisir à apprendre, vous, chien d'ivrogne, dit-il, que vous donnez la chasse à un vaisseau royal. » Teach brailla qu'il en avait menti, mais il se précipita néanmoins au bastingage, et tous l'imitèrent. Je n'ai jamais vu tant d'hommes ivres plus soudainement dégrisés. Le croiseur avait viré de bord à notre impudente démonstration. Ses voiles s'enflaient dans la nouvelle direction, son enseigne se déployait bien visible, et, tandis que nous regardions, il y eut une bouffée de fumée, puis une détonation, et un boulet plongea dans les vagues à bonne distance de nous, trop court. On s'élança aux manœuvres, et la Sarah s'éloigna avec une célérité incroyable. Un matelot attrapa le fût de rhum qui était en perce sur le pont et le fit rouler par-dessus bord. Quant à moi, je m'occupais du Jolly Roger, l'amener et le jeter à la mer, où je me serais volontiers précipité avec lui, tant j'étais vexé de ma maladresse. Pour Teach, il devint pâle comme la mort et descendit sur-le-champ dans sa cabine. Deux fois seulement de tout l'après-midi, il se montra sur le pont. Il s'accouda au bordage de poupe, considéra longuement le vaisseau royal qu'on apercevait encore à l'horizon, s'acharnant après nous, puis, sans mot dire, regagna sa cabine. On peut dire qu'il nous déserta, et n'eussent été un matelot fort capable que nous avions à bord, et la jolie brise qui souffla tout le jour, nous étions immanquablement pendus à la grand-vergue. On imagine combien Teach fut humilié, voire inquiet pour son prestige aux yeux de l'équipage. Et la méthode qu'il employa pour regagner le terrain perdu fut tout à fait dans son caractère. Le lendemain matin, très tôt, l'odeur du soufre qui brûle s'échappa de sa cabine, et on l'entendit crier « Enfer ! Enfer !» exclamation bien connue de l'équipage, qui remplit chacun d'appréhension. Puis il monta sur le pont, en parfait personnage de farce, le visage noirci, les cheveux et les favoris nattés, la ceinture bourrée de pistolets, du sang plein le menton, il mâchait des fragments de verre et brandissait un poignard. Je ne sais s'il avait emprunté ses façons aux Indiens de l'Amérique dont il était originaire, mais telle était sa coutume et il préludait toujours ainsi à d'effroyables exécutions. Le premier qu'il trouva sur son chemin fut l'individu qui avait envoyé le rhum par-dessus bord la veille. Celui-là, il lui transperça le cœur en le traitant de mutin. Puis, sautant sur le cadavre, en beuglant et sacrant, il nous défia tous d'approcher. C'était le plus absurde spectacle, et redoutable aussi, car le vil personnage s'apprêtait de toute évidence à commettre un nouveau meurtre. Soudain, Ballantrae s'avança. « En voilà assez de cette représentation, dit-il. Croyez-vous nous faire peur avec vos grimaces ? On ne vous a pas vu hier quand c'était utile, mais nous nous sommes bien passés de vous, sachez-le. » Il se fit un murmure et un mouvement parmi l'équipage, de plaisir et d'inquiétude, me sembla-t-il, en proportions égales. Teach, lui, poussa un hurlement féroce et balança son poignard comme pour le projeter, exercice qui lui était familier, ainsi qu'à beaucoup de marins. « Faites-lui tomber cela de la main !» ordonna Ballantrae, si prompt et si net que mon bras lui obéit avant même que j'eusse compris. Teach demeura stupide, sans s'aviser de ses pistolets. Descendez à votre cabine, s'écria Ballantrae. Vous remonterez sur le pont quand vous serez de sang-froid. Vous imaginez-vous que nous allons nous laisser pendre pour vous, brute d'ivrogne au visage noirci, espèce de boucher toqué ? Descendez ! Et il frappa du pied d'un air si menaçant que Teach s'encourut vers le capot d'échelle. Et maintenant, camarade, dit Ballantrae, un mot pour vous. Je ne sais si vous êtes des gentlemen de fortune pour la blague, mais moi pas. Je veux de l'argent, puis retourner à terre, le dépenser en homme. Et sur un point, je suis bien résolu, je ne me laisserai pendre que si je ne puis l'éviter. Alors donnez-moi un conseil, je ne suis qu'un débutant. N'y a-t-il pas moyen d'introduire un peu de discipline et de sens commun dans cette entreprise ? L'un des hommes parla. Il dit que, régulièrement, il devrait avoir un quartier-maître, et il n'eut pas plus tôt prononcé le mot que tous furent de son avis. La chose passa par acclamation, Ballantrae fut fait quartier-maître, le rhum fut remis à sa discrétion, des lois furent votées à l'instar de celle d'un pirate nommé Roberts, et la dernière motion fut d'en finir avec Teach. Mais Ballantrae craignit qu'un autre capitaine plus effectif ne vînt contrebalancer son autorité, et il s'opposa fortement à la chose. Teach, dit-il, était bon assez pour aborder les navires et épouvanter les imbéciles avec sa figure noircie et ses blasphèmes. Nous ne pouvions guère trouver meilleur que Teach pour jouer ce rôle, et d'ailleurs, l'individu pouvant être considéré comme déposé, on diminuerait sa part de butin. Ce dernier argument décida l'équipage. La portion de Teach fut réduite à une pure dérision, moindre que la mienne. Et il ne resta plus à résoudre que deux difficultés. Consentirait-il et qui irait lui annoncer les décisions prises ? « Ne vous occupez pas de ça, » dit Ballantrae. « Je m'en charge. » Et il descendit par le capot d'échelle pour aller seul affronter dans sa cabine le sauvage ivre. « Voilà notre homme !» s'écria l'un des matelots. « Trois hurrahs pour notre quartier-maître !» Les hurrahs furent aussitôt poussés avec unanimité. Ma voix ne fut pas la moins forte, et je crois bien que ces acclamations produisirent leur effet sur Maître Teach dans sa cabine, comme nous avons vu naguère à quel point les clameurs de la rue peuvent troubler l'esprit des législateurs eux-mêmes. Ce qui se passa au juste, on ne le sut jamais. Par la suite seulement, il transpira quelques détails de leur conversation. Mais nous fûmes tout aussi étonnés que contents de voir Ballantrae déboucher sur le pont, bras dessus, bras dessous avec Teach, et nous annoncer que ce dernier consentait à tout. Je passe rapidement sur ces 12 ou 15 mois durant lesquels nous continuâmes de naviguer dans l'Atlantique Nord, tirant notre eau et nos vivres des navires capturés, et bref, faisant de très bonnes affaires. Certes, nul n'aimerait lire des mémoires d'aussi mauvais goût que ceux d'un pirate, même involontaire comme moi. Les choses tournèrent au mieux de nos desseins, et dorénavant Ballantrae suivait sans dévier la ligne de conduite qu'il s'était tracée. Je croirais volontiers qu'un gentilhomme doit nécessairement occuper la première place, même à bord d'un écumeur de mer. Mais je suis d'aussi bonne naissance que n'importe quel lord d'Écosse. Et je confesse sans nulle honte que je demeurai jusqu'à la fin un patle violonneux, et que je ne valais guère mieux que le bouffon de l'équipage. En somme, ce n'était pas un théâtre propice à manifester mes talents. Ma santé souffrait pour divers motifs, je me suis toujours trouvé mieux à ma place sur un cheval que sur un pont de navire, et pour être franc, la crainte de la mer, alternant avec celle de mes compagnons, affligeait sans cesse mon esprit. Je n'ai pas besoin de rappeler mon courage, je me suis vaillamment comporté en maintes batailles sous les yeux de généraux illustres, et j'ai mérité mon dernier avancement par un haut fait des plus remarquables, exécuté devant de nombreux témoins. Mais lorsqu'il nous fallait procéder à un abordage, le cœur défaillait à Francis Burke. La petite coquille de noix dans laquelle je devais embarquer, l'effroyable dénivellation des lames, la hauteur du navire à escalader, la pensée qu'il pouvait y avoir là-haut une nombreuse garnison en état de légitime défense, le ciel tempétueux qui, sous ce climat, étalait si souvent sur nos exploits sa sombre menace, et jusqu'au hurlement du vent dans mes oreilles, étaient toutes conditions fort déplaisantes à ma valeur. En outre, comme je fus toujours de la plus exquise sensibilité, Les scènes qui devaient suivre notre succès me tentaient aussi peu que les chances de défaite. Par deux fois, il se trouva des femmes à bord. Et j'ai beau avoir assisté à des sacs de ville, et dernièrement en France, au plus affreux excès populaire, il y avait dans le petit nombre des combattants et dans les dangers de cette immensité de mer alentour de nous, un je ne sais quoi qui rendait ces actes de piraterie infiniment plus révoltants. J'avoue franchement qu'il me fut toujours impossible de les exécuter avant d'être aux trois quarts ivres. Il en allait de même pour l'équipage. Teach en personne n'était bon à rien s'il n'était gorgé de rhum. Et la fonction de balintrée la plus délicate consistait à distribuer les liqueurs en juste quantité. Cela même, il s'en tirait à la perfection, car il était sur toute chose l'homme le plus capable que j'ai jamais rencontré et du génie le plus réel. Il ne cherchait pas à capter les bonnes grâces de l'équipage, comme moi, par des bouffonneries continuelles exécutées d'un cœur anxieux. Mais, dans la plupart des occasions, il demeurait grave et distant. On eût dit un père au milieu d'une famille de jeunes enfants, ou un maître d'école avec ses élèves. Ce qui augmentait les difficultés de son rôle, c'est que les hommes étaient d'invétérés mécontents. La discipline de balintrée, toute minime qu'elle fût, pesait à leur amour de la licence, et ce qui était pis, en les empêchant de boire, il leur donnait le loisir de penser. Plusieurs, en conséquence, commencèrent à regretter leurs abominables forfaits. L'un en particulier, bon catholique, et avec qui je me retirais parfois à l'écart pour dire une prière, surtout par mauvais temps, brouillard, pluie battante, etc., lorsque l'on ne nous remarquait pas. Et je suis sûr que deux criminels sur la charrette n'ont jamais accompli leur dévotion avec une plus anxieuse sincérité. Mais le reste de l'équipage, n'ayant pas de semblable motif d'espoir, se livrait à un autre passe-temps, celui des calculs. Tout le long du jour, ils ressassaient leur part ou se dépitaient du résultat. J'ai dit que nos affaires allaient bien, mais il faut remarquer ceci, que dans ce monde, en aucune entreprise de ma connaissance, les bénéfices ne sont à la hauteur de l'attente. Nous rencontrâmes de nombreux navires et en prîmes beaucoup. Cependant, bien peu contenaient de l'argent. Leurs marchandises ne nous étaient à l'ordinaire d'aucun usage. Qu'avions-nous besoin d'une cargaison de charrues ou même de tabac? Et il est triste de songer au nombre d'équipages tout entiers auxquels nous avons fait faire la promenade de la planche pour guère plus qu'un stock de biscuits ou deux ou trois quartaux d'alcool. Cependant, notre navire faisait beaucoup d'eau. Et il était grand temps de nous diriger vers notre port de carénage, qui était l'embouchure d'une rivière environnée de marais. Il était bien entendu que nous devions alors nous séparer, en emportant chacun sa part du butin, et ceci rendait nos hommes plus avides de l'augmenter encore, de sorte que la résolution était ajournée quotidiennement. Ce qui, pour finir, décida les choses, fut un banal incident, qu'un ignorant pourrait croire familier à notre façon de vivre. Mais je dois donner ici une explication. Sur un seul de tous les navires que nous abordâmes, le premier de ceux où se trouvaient des femmes, on nous opposa une résistance réelle. Dans cette occasion, nous eûmes deux tués et plusieurs blessés, et sans la valeur de balintrée, nous aurions été finalement repoussés. En tout cas, la défense, lorsqu'elle se produisait, était de nature à faire rire les plus mauvaises troupes de l'Europe. En somme, le plus périlleux de notre métier était d'escalader le flanc du navire, et j'ai même vu de pauvres âmes nous jeter du bord une amarre dans leur empressement à s'engager au lieu de passer sur la planche. Cette impunité constante avait rendu nos gens si mous que je comprenais sans peine comment Teach avait fait une telle impression sur leurs esprits, car en fait, la société de ce lunatique était le plus grand danger de notre existence. Voici l'incident auquel j'ai fait allusion. Nous venions de découvrir fort près de nous, dans le brouillard, un petit navire toute voile dehors. Il marchait presque aussi bien que nous, il serait plus vrai de dire presque aussi mal. Et nous dégageâmes la pièce de chasse pour voir si nous pourrions leur tirer deux ou trois coups aux oreilles. La mer était très forte, le roulis du navire indescriptible. Rien d'étonnant si nos canonniers firent feu à trois reprises et sans atteindre, et de loin, leur but. Mais cependant, sur l'autre navire, on avait apprêté un canon de poupe que le brouillard épais nous dissimulait. Et comme ils avaient de meilleurs pointeurs, leur premier boulet nous atteignit par l'avant, réduisit nos deux canonniers en bouillie, si bien que nous fûmes tous éclaboussés de sang, et plongea dans le gaillard où nous logions. Ballantrae voulut qu'on mît en panne. En réalité, il n'y avait rien dans ce contretemps qui dût affecter l'esprit d'un soldat, mais il eut une prompte intuition du désir de l'équipage, et il était clair que ce coup de hasard les avait tous dégoûtés de leur métier. Sur l'instant, nous fûmes d'un commun accord. Le navire s'éloignait de nous, il devenait inutile de mettre en panne, la Sarah était trop avariée pour embarquer un verre d'eau de plus. C'était folie de tenir la mer davantage, et sous ces prétextes, on vira de bord immédiatement pour se diriger vers la rivière. Je vis avec surprise la joie se répandre parmi l'équipage, et tous se mettre à danser sur le pont en plaisantant, et chacun calculer de combien sa part s'était accrue grâce à la mort des deux canonniers. Il nous fallut 9 jours pour gagner notre port, tant la brise était faible et notre carène avariée, mais le 10e avant l'aube, par une légère brume, nous doublâmes la pointe. Peu après, la brume se leva un instant, et avant de retomber, nous laissa voir un croiseur tout proche. Le coup était désagréable, survenant si près de notre asile. Il y eut grande discussion pour savoir si l'on nous avait aperçus et s'il était vraisemblable qu'ils eussent reconnu la Sarah. Nous prenions grand soin, en supprimant jusqu'au dernier membre des équipages capturés, de ne laisser subsister aucune preuve contre nous, mais l'aspect de la Sarah ne se pouvait dissimuler aussi aisément. Et surtout vers la fin, une fois avariée, et quand nous eûmes poursuivi sans succès plusieurs navires, sa description avait certainement été publiée. Cette alerte aurait dû nous inciter à une séparation immédiate. Mais ici encore, le génie de Ballantrae me réservait une surprise. Tite chez lui, et ce fut son succès le plus remarquable, avait marché la main dans la main depuis le premier jour de son élection. Je l'ai souvent questionné là-dessus, mais sans obtenir de réponse qu'une fois où il me dit que Tite chez lui avait passé une convention qui surprendrait beaucoup l'équipage s'il l'apprenait et qui le surprendrait lui-même encore plus si elle se réalisait. Eh bien, cette fois encore, Tite et lui furent du même avis, et de leur commun accord, l'ancre ne fut pas plutôt mouillée que tout l'équipage se livra à une scène d'orgie indescriptible. Dans l'après-midi, nous n'étions plus qu'une troupe de démons, jetant les choses par-dessus bord, braillant plusieurs chansons à la fois, nous querellant et nous battant, puis oubliant la querelle pour nous embrasser. Ballantrae m'avait enjoint de ne rien boire et de simuler l'ivresse si je tenais à ma vie, et je n'ai jamais passé journée plus fastidieuse, couché la plupart du temps sur le gaillard d'avant à considérer les marécages et les buissons qui semblaient enfermer de toutes parts notre petit bassin. Peu après le crépuscule, Ballantrae vint trébucher contre moi, feignit de tomber avec un rire d'ivrogne, et avant de se relever me chuchota de « descendre dans la cabine » et de feindre de m'endormir sur une couchette, car on aurait bientôt besoin de moi. Je fis comme il me le disait, et m'en allant dans la cabine, où il faisait tout à fait obscur, me laissai tomber sur la première couchette venue. Il s'y trouvait déjà un homme. À la façon dont il me repoussa, je ne pouvais croire qu'il eût beaucoup bu, et pourtant, lorsque j'eus trouvé une autre place, il parut se rendormir. Mon cœur se mit à battre avec force, car je voyais qu'il se préparait quelque coup désespéré. Alors descendit Ballantrae, qui alluma la lampe, regarda autour de lui dans la cabine, hocha la tête avec satisfaction et retourna sur le pont sans mot dire. Je risquai un coup d'œil entre mes doigts et vis que nous étions 3 sur les couchettes à sommeiller ou faire semblant. Moi, un certain Dutton et Grady, 2 hommes résolus. Sur le pont, les autres en arrivaient à un point d'ivresse véritablement inhumain, et nul qualificatif raisonnable ne peut décrire les sons qu'ils émettaient à cette heure. J'ai entendu pas mal de cris d'ivrogne, pour ma part, dont beaucoup à bord de cette même Sarah, mais jamais rien qui ressemblât à ceux-ci, de sorte que j'en vins à croire que la boisson avait été droguée. Il se passa longtemps avant que ces cris et ces hurlements se réduisissent à de lugubres gémissements, puis au silence. Et cela me parut long ensuite, jusqu'à ce que Ballantrae redescendit, cette fois avec Teach sur ses talons. Ce dernier se mit à jurer en nous voyant tous les trois sur les couchettes. « Tintin, dit Ballantrae, vous pouvez leur tirer un coup de pistolet aux oreilles. Vous savez quelle drogue ils ont absorbée. » Il y avait dans le plancher de la cabine un panneau sous lequel le plus précieux du butin avait été renfermé jusqu'au jour du partage. Il se fermait à l'aide d'un anneau muni de 3 cadenas, dont les clés étaient réparties pour plus de sûreté, l'une à Teach, l'autre à Ballantrae, la troisième au capitaine en second, un nommé Hammond. Cependant, je fus surpris de voir que toutes trois étaient à cette heure dans la même main, et plus surprise encore, toujours regardant entre mes doigts, lorsque Teach et Ballantrae sortirent l'un après l'autre 4 ballots, soigneusement ficelés et munis d'une courroie pour les porter. « Et maintenant, dit Teach, allons-nous-en. » « Un mot, dit Ballantrae. J'ai découvert un homme qui, en dehors de vous, connaît un passage secret à travers le marais, et le sien a l'air plus court que le vôtre. » Teach s'écria alors qu'ils étaient perdus. « Je ne vois rien de ce genre, dit Ballantrae, car il y a encore d'autres particularités que je dois vous révéler. » « Premièrement, il n'y a pas de balles dans vos pistolets, que, s'il vous en souvient, j'ai eu l'amabilité de charger tous les deux pour vous ce matin. Deuxièmement, puisqu'un autre connaît le moyen de traverser, vous pensez bien que je ne vais pas m'encombrer d'un lunatique de votre espèce. Troisièmement, ces gentlemen, ce n'est plus la peine qu'ils fassent semblant de dormir, sont tous de mon parti et vont maintenant procéder à l'opération de vous bâillonner et ficeler au mât. Et lorsque vos hommes s'éveilleront, s'ils s'éveillent jamais, après les drogues que nous avons mêlées à leur rhum, je suis sûr qu'ils auront l'obligeance de vous délier, et que vous n'aurez aucune difficulté à expliquer l'affaire des clés. » Teach ne dit mot, et se laissa bâillonner et garrotter, en nous regardant comme un bébé effrayé. « Vous voyez donc à présent, espèce d'imbécile, dit Ballantrae, pourquoi nous avons fait 4 ballots. Jusqu'ici, vous vous appeliez le capitaine Teach. » Mais je crois que vous êtes devenu le capitaine Learn.